Soyez les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence, aujourd'hui avec comme invité un comédien que j'ai rencontré à l'occasion de répétition pour un nouveau spectacle. Et cette émission a été enregistrée dans un bar, c'est pourquoi vous allez entendre des sons que nous pouvons entendre dans de pareils endroits. Mehdi Djahadi, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Donc Mehdi Djahadi, vous êtes comédien et là vous êtes en cours de répétition pour un nouveau spectacle qui se produira également dans les différents théâtres et scènes en Normandie et en France. Quelques mots sur ce roman qui a inspiré justement le scénario de ce nouveau spectacle.
L'adaptation d'un roman qu'on adapte au théâtre, d'un bouquin qui s'appelle Monsieur le curé fait sa crise. C'est une pièce qui va un peu montrer un peu quel regard on porte sur eux, puis surtout quel est un peu leur quotidien.
Et vous avez adapté ce livre grâce à l'aide de Elena Sadovi.
Avec Elena Sadovi, et donc on a choisi Reynolds de Guéniveau pour jouer ce personnage, mais qui là aussi justement, on a entendu beaucoup de choses sur les prêtres ces dernières années, et donc là le bouquin nous raconte cette histoire du point de vue du prêtre. Qu'est-ce que c'est que de gérer une paroisse? Qu'est-ce que nous croyants nous posons comme regard sur la figure du prêtre, et quel regard aussi les gens pas croyant pose sur le prêtre. Et ce qui est intéressant, c'était juste de le mettre de son point de vue à lui, comment lui le vit, et sans jugement, sans faire une ode à la prêtrise, mais sans non plus descendre les prêtres. Voilà, c'était juste se mettre du point de vue d'un prêtre et essayer de comprendre comment eux vivent leur vocation.
Et devenir comédien, est-ce que c'était déjà une évidence lorsque vous étiez enfant ou adolescent?
Je viens d'un quartier populaire où on était plutôt dans des modes de vie où on vivait un peu entre nous, et j'ai un peu voulu voir quel était le monde qui m'entourait, en quoi croyaient les autres personnes qui m'entouraient, et ça c'est d'abord passé par la littérature. Moi j'étais un autodidacte, j'étais tout le temps fourré à la bibliothèque, j'étais passionné de littérature, et la vie des hommes à travers la littérature m'a touché, puis la vie des hommes tout court après par la suite, ouais.
Vous avez été bercé dans la culture de l'islam, et à un moment de votre vie, vous avez demandé le baptême. Comment s'est fait ce choix?
Oui, ce sont des expériences, des rencontres, et moi notamment celle avec le Christ. En tout cas, le message du Christ dans les évangiles m'a profondément bouleversé. Et donc, effectivement, j'ai fait ce choix libre dans un pays qui m'autorise cette liberté de conscience. J'ai conscience que justement ce n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde. Et c'est vrai que moi, sur mon chemin, j'ai fait des rencontres qui ont permis ce choix libre et joyeux de demander le baptême. Je suis la même personne, mais par contre, mon regard sur Dieu, sur le monde, sur les gens, a lui a profondément changé.
Et comment avez-vous fait pour discerner si c'était l'appel de Dieu ou le fruit de votre imagination?
Je pense qu'il y a toujours une part de psychologie, d'imagination peut-être, de ressenti. Comme on disait tout à l'heure, Dieu fait aussi avec toute votre personne. Parmi toutes les lectures que j'ai pu avoir, beaucoup m'ont nourri, beaucoup m'ont inspiré, beaucoup continuent à le faire. Mais c'est vrai que l'histoire de la révélation et le message des évangiles, le message de Jésus, j'ai rarement trouvé quelque chose d'aussi beau, à la fois en littérature, si je puis dire, mais plus que ça, parce que les évangiles sont pour moi la parole vivante de Dieu, et là j'avais vraiment l'impression que Dieu s'adressait à moi personnellement, et qu'il continue à le faire, à incarner cette parole vivante, réelle, présente et intemporelle aussi, quelque part.
Incarner un rôle, incarner une parole, ça engage.
Ouais, c'est vrai qu'après ça engage, parce qu'il y a une vraie exigence, et il faut vraiment être au service du texte et de l'œuvre que veut raconter cette œuvre, et de se mettre au service de celle-ci. Alors effectivement, ça demande une grande exigence, mais aussi c'est beaucoup de plaisir, parce qu'on est un peu les transmetteurs d'un message ou d'une histoire.
Transmettre des valeurs, l'éducation que vous avez reçue dans le quartier où vous êtes né en Algérie, quelques mots sur ses racines?
Quartier populaire, après difficile parce que les conditions de vie sont difficiles parfois. Effectivement, il y avait un peu de pauvreté, un peu de misère, mais en même temps, paradoxalement, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'entraide, beaucoup de joie. C'est vrai que j'ai à la fois vécu des choses difficiles, douloureuses, et en même temps, ce sont des souvenirs qui restent gravés, des souvenirs vraiment de moments très forts, de convivialité, de partage, et ça, oui, c'est vraiment ancré en moi. Ouais.
Quelques mots aussi sur l'éducation que vous avez reçue de la part de vos parents, un papa ouvrier, une maman passionnée par l'éducation des bébés.
Ouais, c'est ça. C'est très beau quand vous dites ça, passionné par l'éducation des bébés. À une époque, on les appelait les nourrices, et voilà. Aujourd'hui, c'est les assistantes maternelles. Mais c'est vrai qu'on a grandi à la maison avec une flopée d'enfants autour de nous. Nous, on était déjà quatre. Donc effectivement, il y avait beaucoup de vie à la maison. Et c'est vrai, un père qui, comme beaucoup de Français et de Français d'origine maghrébine, a passé toute sa vie à travailler dans des conditions difficiles pour voilà subvenir aux besoins de sa famille à la fois en France mais aussi celle qui était restée en Algérie.
Et que retenez-vous de ces différentes valeurs transmises avec vos frères et sœurs ?
C'était une fratrie assez soudée, il y avait beaucoup d'amour entre nous. Moi j'étais très inspiré par ma grande sœur qui est une femme très très brillante, et puis en même temps on essaie de donner le bon exemple à ceux qui sont derrière. Ça n'a pas toujours été le cas pour moi, mais je me suis bien rattrapé, on va dire.
Est-ce qu'on peut dire que Dieu, pour parler de lui, a écrit droit dans votre vie avec des lignes courbes ?
Ouais, je crois qu'il le fait un peu avec tout le monde, hein. Il y a vraiment cette idée de il fait avec, il fait feu de tout bois et il est toujours là, prêt à nous tendre la main, prêt à son oreille est toujours attentive. C'est nous parfois qui avons un peu du mal à l'écouter, à l'entendre. Mais pour ça, il faut faire silence et parfois dans les bruits du monde, on a du mal à l'écouter.
Est-ce que vous trouvez des oasis dans les déserts parfois de nos vies?
Oui, bah déjà l'épaule de mon épouse, qui est déjà un oasis où je peux justement me ressourcer. J'ai pour habitude d'aller faire des retraites, notamment dans une abbaye qui m'est chère, à l'abbaye de Seffond, dans l'Allier, des frères trappistes cisterciens. Donc voilà, j'ai ces petits moments où effectivement je peux aller me ressourcer et faire silence.
Vous êtes donc passionné par la nature humaine, vous êtes passionné par le théâtre et vous avez pris des cours, suivi des cours à Lausanne.
Oui, c'est ça, j'ai passé des concours comme beaucoup de jeunes comédiens qui sortaient de conservatoire pour rentrer dans des écoles supérieures, et j'ai eu la chance de réussir celui de Lausanne, et ça a été 3 années très formatrices, très dures, hein, puisque moi j'avais arrêté l'école quand j'avais 14 ans et là je me retrouvais dans une école supérieure à avoir des cours de 8h à 20h, donc c'était très exigeant. Mais l'école m'a plus servi après, ça a été plein d'outils, plein d'outils que j'ai pu utiliser tout au long de ma carrière, entre guillemets, et de ma vie. Et c'est vrai que ça a été 3 années merveilleuses. Et ouais, j'ai beaucoup aimé vivre en Suisse.
Est-ce que vous feriez une distinction entre les artisans et les artistes, des artisans de mots ou des sculpteurs de mots?
Ouais, c'est très juste. Je pense que les artisans ont vraiment ce maniement de la matière. Et je pense que les artistes manient aussi une autre matière, qui peuvent être celle des mots, qui peuvent être celle des corps, qui peuvent être notamment à travers la danse, à travers le théâtre, le fait d'incarner une parole. Donc il y a vraiment un travail d'artisan. Et là, je le vois aussi en répète, je fais répéter un comédien où il faut tailler, sculpter, faire entendre la bonne virgule au bon moment, comme un artisan le ferait pour que tel vitrail reflète la lumière de telle façon. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal de similitudes en effet.
Tendance Confidence, aujourd'hui avec un comédien, un acteur, qui est en train de répéter un nouveau spectacle. Et cette émission a été enregistrée dans un bar, c'est pourquoi il y a aussi les différents bruits que nous pouvons entendre dans ce genre d'endroit. Mehdi Djahadi, poursuivons avec vous cette émission. Vous avez dit en première partie d'émission que vous étiez converti au christianisme, alors que votre religion familiale était l'islam. Que vous inspire au début de cette seconde partie d'émission le mot « foi » ?
La foi met de toute façon en mouvement, elle vous met en mouvement pour vous aimer vous, pour aimer Dieu et puis surtout pour aimer les autres. La foi, elle est aussi là pour vous nourrir et pour vous donner un regard différent sur le monde, sur les gens, et donc forcément elle vous pousse à rencontrer l'autre, et donc dans les rencontres, vous vivez des choses, vous aidez, vous laissez aider, vous vous laissez aimer.
Avez-vous des critères pour accorder ou non votre confiance à quelqu'un ?
Non, je pars du principe que j'essaye de faire confiance à tout le monde, parce que je me dis qu'en chacun, il y a une part vraiment de bon et de beau, et que j'espère que la relation avec la personne sera plus sur cet aspect-là du bon et du beau, en prenant le risque, bien évidemment, d'être trahi. Mais peut-être que ce sera une occasion pour moi, justement, d'accorder un pardon.
Sur les frontons des mairies ou des monuments publics en France, nous pouvons lire « liberté, égalité, fraternité ». Quel est votre regard et votre analyse sur ces différentes valeurs ?
Ou la liberté, on parlait tout à l'heure de liberté d'expression, de liberté de conscience. Voilà, il y a quand même, je pense que la liberté, on la chérit. Parce que pour moi, l'égalité est très proche aussi de la dignité. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire sur la dignité, notamment des plus vulnérables, les personnes âgées, voilà, toutes les minorités. Et on a encore beaucoup à faire sur ce sujet-là. Et puis, la fraternité découle de tout ça. Je pense que c'est aussi une richesse de notre pays. On l'entend pas assez. Se dire que la laïcité permet l'expression de toutes ces fois et que ce n'est pas la négation de la foi, mais qu'elle est aussi garante pour que tous les croyants puissent vivre librement leur foi en paix.
Vous avez parlé aussi d'une valeur qui s'appelle aussi la dignité. En tant que comédien, Mehdi Djahadi, comment demeurer fidèle par rapport à cette notion aussi de l'engagement qui est aussi la vôtre en tant qu'homme et en tant que comédien ?
Je pense que l'engagement, c'est une valeur qui a été très dévoyée ces dernières décennies. On ne s'engage plus, on a du mal à s'engager. On a du mal à s'engager dans les vies professionnelles où on change, on peut changer. Voilà. On a du mal à s'engager avec une personne, notamment dans le mariage. Moi, je suis pas mieux que tout le monde. J'essaye d'être fidèle. Je tombe, mais ce qui compte, c'est de se relever avec humilité.
Je sais que vous êtes passionné aussi par la randonnée et par le pèlerinage. Mais ne pensez-vous pas, peut-être que vous aimez aussi l'alpinisme, que la montagne la plus difficile à gravir, c'est la montagne intérieure ?
C'est à la fois la plus difficile à gravir, mais en même temps, quand on la gravit, n'est-ce pas la plus belle ? Je pense que cette idée de marche, cette idée de pèlerinage, nous montre à quel point, à la fin de l'effort, il y a toujours une joie. La joie d'avoir accompli tel ou tel exploit, la joie d'être allé de tel point à tel point, la joie de lors du chemin avoir vu quelque chose de beau, rencontré quelqu'un de beau, les deux sont liés en fait.
Mehdi Djahadi, après avoir été élevé dans la religion de l'islam, vous avez demandé le baptême pour devenir chrétien, vous avez rencontré le pape François, que retenez-vous de cette rencontre ?
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à deux reprises, une fois avec mon épouse et une deuxième fois lors d'un voyage qui s'appelle le voyage du bien commun avec 200 entrepreneurs chrétiens qui vont partir en pèlerinage pendant 3 jours et pour se mettre au service du bien commun. Et j'ai vu quelque chose se dégager de lui, à la fois de très exigeant, et on sent qu'au vu de toutes les réformes qu'il mène, il faut avoir les épaules solides, et en même temps, dès qu'il croise un regard, dès qu'il est avec les gens, son visage s'illumine, on sent que ça le nourrit, c'est presque comme si il avait besoin de cette énergie des autres. Et donc du coup, ça lui donne une chaleur très paternelle, très fraternelle. Et ça m'a beaucoup touché à un tel point que je l'ai pris dans mes bras et qu'on a eu un hug de quelques secondes.
Il y a un adage qui dit « Dis-moi comment tu vis, je te dirai en qui tu crois ». C'est la forme de témoignage.
Ouais, c'est vrai que, et notamment avec le pape François, on voit qu'il a une grande exigence envers lui, en même temps un grand amour des autres, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de vitrine qui doit ressembler à l'arrière-boutique, et souvent, voilà, quand on voit l'église, quand on voit certains agissements d'hommes d'église, plutôt, on comprend pas, mais ils ne sont pas représentatifs. Des milliers, des millions, que dis-je, de milliards de chrétiens silencieux à travers le monde qui sont les artisans de paix.
J'imagine que vous avez suivi à la télévision le 15 mai dernier la canonisation de Charles de Foucault, l'homme du désert. Il a vécu comme un ermite, Taman Rasset, tout cela, vous qui venez aussi d'Algérie, ça vous inspire ?
Bien sûr, mais ce qui m'inspire le plus avec la figure de Saint Charles de Foucault, c'est qu'il n'attendait pas et il n'imaginait pas les fruits de sa vie. Il aurait aimé peut-être que les musulmans découvrent le Christ, tout ça, puis finalement lui, ça l'a converti lui-même là où il ne s'attendait pas. Et puis il faut dire qu'il a fait partie des personnes qui ont inspiré le Concile Vatican II et qu'aujourd'hui en 2022 des dizaines, des centaines des gens se convertissent grâce à l'intercession de Charles de Foucault, ou sont inspirés par sa vie. Et parfois, nous, on a tendance à vouloir des fruits tout de suite de nos vies ou de ça, de comment le bon Dieu agit avec nous et à travers nous. Et ce que je trouve très beau dans la figure de Saint Charles de Foucault, c'est que les fruits sont venus un siècle plus tard. Et ça nous dit quelque chose du temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. En plus de, effectivement, toute cette vie donnée aux autres, à essayer de comprendre et à rencontrer les autres, les Touaregs d'abord au Maroc, puis ceux d'Algérie, le besoin de comprendre leur langue, et puis de vivre en frère universel. Et ça, je crois que là aussi, c'est très prophétique pour notre temps.
Le temps de l'inculturation est vraiment très important, prendre le temps de rencontrer l'autre.
Mais c'est la clé, en fait. Vous ne pouvez pas dire qui est le Christ pour vous si vous n'avez pas essayé de comprendre qui il est, quelle est sa vie, en quoi il croit, et de vivre des moments avec lui, parce qu'on parle de choses très intimes, de choses très profondes, et ça ne s'annonce pas comme ça, en claquant des doigts ou en l'assénant brutalement. Ça doit nécessairement passer par l'amitié, par la rencontre.
Avec votre épouse, vous êtes engagé aussi dans le monde associatif. Vous pouvez nous parler aussi de ces différents engagements que vous avez dans ce monde associatif ?
Oui, mon épouse a été très engagée dans un café d'inspiration chrétienne qui s'appelle Dorothy, et donc en inspiration à Dorothy Day, qui est une figure catholique du XXe siècle aux États-Unis. Il faut poursuivre ce dialogue, il faut poursuivre ces rencontres sans angélisme. Je crois qu'il faudrait aussi intégrer à l'intérieur de ces dialogues écuméniques et interreligieux peut-être justement les gens qui ne le sont pas, qui ont peut-être aussi des choses à nous dire et qui ont peut-être aussi à redécouvrir ou à peut-être à reconsidérer les croyants. Donc il y a peut-être aussi un travail justement en intégrant justement des gens qui ne sont pas croyants et continuer à discuter, à dialoguer avec eux.
Merci Mehdi Djihadi pour ce temps accordé à cette émission Tendance Confidence.